Avec Warner Chappell Music, la musique de film à l'honneur, c'est normal, sur la radio du cinéma. Et Warner Chappell Music nous permet de faire de belles rencontres. J'ai au bout du fil Monsieur Christophe Misraki. Bonjour, bienvenue sur la radio du cinéma.
Bonjour.
J'ai envie de dire, vous êtes ici chez vous. Hein.
Merci.
On va parler de Paul, votre papa. Est-ce que déjà, première question, vous êtes garant, bien sûr, de ce patrimoine immense qu'a laissé Paul Misraki. C'est important que la jeune génération, entre guillemets, écoute encore, découvre peut-être l'immense composition, l'immense répertoire de votre papa.
Ah, c'est essentiel, oui, c'est essentiel parce que Paul Misraki a joué un rôle important dans le cinéma français du XXe siècle et a joué aussi un rôle important dans la composition de chansons dans le XXe siècle. Certaines chansons sont immortelles. Tout va très bien, Madame la Marquise. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On n'a pas besoin de revenir sur ces choses-là. Il a été chanté par des interprètes qui sont inoubliables, comme Edith Piaf, Yves Montand, Henri Salvador, un grand nombre des meilleures vedettes des années 40, 50, 60, Nicoletta, pour finir. Et donc, oui, c'est un patrimoine vivant et c'est un patrimoine qui s'écoute toujours aujourd'hui. Oui.
Bon, et Dieu créa la femme, voilà, le mambo bébé, c'était lui, hein, donc,
ouais.
Pour ne citer que celui-là. Hein. De quelle façon travaillait-il, en fait? On sent qu'il y a une multitude de références. Comment pourrions-nous cerner le compositeur qu'il était à multifacettes?
Alors d'abord, il faut, je pense, comprendre qu'on a quelqu'un qui a la musique dans la tête. C'est un talent inné et c'est un garçon qui, à 7 ans, compose une valse, dont on a toujours la partition d'ailleurs, et qui est une vraie valse à 7 ans. À 16 ans, il a composé une opérette complète avec ses copains comme interprètes principaux. Et ensuite, on a vu progresser un personnage qui était capable de concevoir toute l'orchestration dans sa tête à partir de simplement une ou deux notes de piano. Et ça nous donne d'ailleurs à quelqu'un qui faisait une ou deux notes de piano dans un silence total ensuite, retranscrivait au crayon sur une partition d'orchestre complète la totalité des partitions de chacun des instruments. Et c'était perturbant pour les voisins qui s'attendaient à ce qu'un compositeur ça fasse beaucoup de musique et qui se remarquaient qu'il travaillait beaucoup en silence. Donc vous avez un personnage qui a la musique dans la tête et qui du coup était poreux aux influences, était très à l'écoute du son qu'il entendait, et il l'entendait de façon décryptée. Et c'est de cette façon qu'il s'est comporté en véritable éponge des styles musicaux qui se trouvaient autour de lui pour pouvoir composer pour les films des musiques qui correspondaient à l'ambiance demandée, au lieu demandé, aux influences demandées.
C'est certain qu'on ne compose pas pour Orson Welles comme on peut le faire pour Jean Renoir ou Patrice Lecomte.
Oui, ou Jean-Luc Godard. oui, en effet. On a plein d'anecdotes, d'ailleurs, dans ces mémoires qui n'ont pas été publiées jusqu'à présent. On a plein d'anecdotes extraordinaires de discussions serrées avec certains réalisateurs parce qu'effectivement, les demandes ne sont pas les mêmes. C'est toujours à la dernière minute. C'est un métier complexe, plein de contraintes, minuté et vraiment très intéressant. On a plein de choses.
Il y a quand même une période de l'histoire du cinéma français qui lui colle à la peau, c'est forcément la Nouvelle Vague.
Absolument, c'est le compositeur chouchou de la Nouvelle Vague. Ce qui n'empêchait pas de travailler en même temps pour Jean Delannoy, qui était l'ennemi juré de la Nouvelle Vague.
Ouais.
Mais en effet, oui, la Nouvelle Vague l'a pris comme un chouchou. Quand on a commencé à voir apparaître l'idée que la musique ne devait plus simplement souligner, mais devait presque même être un acteur à part entière et parfois même être au contraire de l'action. Et puis ensuite, le deuxième temps, c'est quand on a découvert qu'on pouvait faire un succès mondial avec une chanson de film, et où du coup, la musique est sortie du film pour se vendre à l'extérieur. Et du coup, là, il s'est passé enfin une porosité et un accès au grand public et une capacité du grand public à retenir des mélodies de film.
Ouais.
Et à partir de là, oui, on a commencé vraiment à parler de la musique de film comme un rôle à part entière. Et ça s'est ensuite transmis à ce qui aujourd'hui crée les concerts de compositeurs vedettes de Hollywood qui arrivent à attirer des milliers de personnes dans des salles magnifiques.
Mmh.
Donc oui, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Mon père ne parlait pas trop au Festival de Cannes. Il a un souvenir, c'était d'y avoir rencontré Brigitte Bardot. mais il y a peu été, et c'était pas un grand mondain. Hein. Donc c'était tout à fait le genre de truc qu'il était ravi de pouvoir éviter, en fait.
Il manquerait plus qu'une chose, c'est un véritable festival consacré aux musiques de films.
Ah bah certainement, certainement, et ça marcherait.
Bon, on y pense alors, très sérieusement. Et
Oui, absolument.
on se rappellera à cette occasion.
Aucun problème.
Merci Christophe Bisraki, et on se replongera régulièrement avec Music Warner Chapel dans ce patrimoine de Paul Misraki, l'immense catalogue qu'il nous a laissé, les 185 musiques de films de Paul Misraki. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt
Au
sur la radio
revoir.
du cinéma. Au revoir.